Conte aux quatre vents, une émission réalisée avec le Cercle des conteurs du Briançonnais, disponible tous les derniers mercredis du mois sur Fréquence Mistral. Aujourd'hui, comme chaque mois sur Fréquence Mistral, vous allez entendre quatre contes. Les trois premiers, toutefois, sont inédits, puisqu'ils sont tirés de deux livres écrits par les membres du Cercle des conteurs du Briançonnais. Ces livres, ce sont Les sabots de Vénus et Tant qu'il y aura des mots. Je laisse place à Philippe et Pauline, vos conteurs du jour. Bonne écoute!
Les sabots de Vénus. Cet hiver 1195 avait été terrible. Il régnait dans tout l'Embruné un froid de loup. La neige était tombée dès la mi-novembre et elle ne cessait de tomber. Les moines, les novices passaient des après-midi entières à fendre le bois de mélèze et de chêne qu'ils avaient rangé dans de vastes granges. Plus bas dans le vallon, en redescendant vers Embrun, se trouvait une ferme misérable. La mère avait mis au monde un dixième enfant. Les parents, ne pouvant nourrir cette grande famille, avaient décidé d'abandonner le plus jeune. Cette nuit-là, ils arrivent à la porte de l'abbaye. « Femme, enveloppe-le bien dans sa couverture et dépose-le au bas de la porte. Attention, je vais tirer la cloche. Tout de suite après, nous irons nous cacher derrière ces gros mélèzes. » Les parents, l'âme défaite, sont repartis dans la nuit froide et noire. Les moines ayant recueilli ce petit garçon le jour de la Saint-Bruno l'ont appelé Bruno. 15 ans plus tard, Bruno est devenu un beau gaillard, plein de force et de joie de vivre. Il chante du matin au soir et aime surtout travailler la terre, retourner le jardin, couper du bois et aussi tailler la pierre. Les moines espèrent le garder parmi eux, mais celui-ci, insouciant et rêveur, est à mille lieues de penser à son avenir. Devenir moine, passer sa vie entre quatre murs, ça ne l'attire pas du tout. Le soir, avec son copain Michel, lui aussi orphelin, il ne parle que de grands voyages et d'aventures chevaleresques. Un après-midi, alors que Bruno et Michel taillent des pierres pour l'abbaye dans le torrent du Colombier, Bruno s'éloigne un peu pour aller boire et se reposer. Il s'allonge au pied d'un sapin et sombre dans un sommeil profond comme un lac de montagne. « Viens, viens dans la montagne ! Là-haut, tout près d'un lac, j'ai ma cabane !» Une belle jeune fille appelle Bruno. Elle court devant lui, aussi agile qu'un chamois. « Si tu me perds en chemin, j'abandonnerai mes sabots pour que tu puisses me retrouver !» Bruno hésite, se lance à sa poursuite, mais la jeune fille a déjà disparu. À son réveil, il monte vers le cirque du Grand Morgon. Sur le sentier, il découvre des fleurs qu'il n'a jamais vues et qui ressemblent à des petits sabots. Oh, « ce sont les sabots de ma belle, les sabots de Vénus !» murmure notre jeune poète. Le soir, au dortoir, à mots couverts, il raconte tout à son ami Michel. « Demain, dit Bruno, je vais attendre mamie auprès de ce sapin. »« Mais ce n'est qu'un rêve, répond Michel. » Le lendemain après-midi, sous le regard complice de Michel, Bruno s'éloigne. Il s'assied le dos contre la souche du sapin. Et bientôt, il l'aperçoit à travers les arbres. Elle vient vers lui et le prend par la main. Tous les deux sont partis vers les cimes enneigées, bien au-delà des nuages, loin des abbayes et des villages. On ne les a jamais revus. Le matin suivant, tous les moines de l'abbaye sont partis à la recherche de Bruno. Ils ne l'ont pas retrouvé. Mais en chemin, Michel leur a montré des fleurs que personne ne connaissait. « Ce sont des sabots de Vénus », a dit religieusement Michel. Un peu plus loin, les sabots de Vénus côtoyaient une nouvelle variété de lys, inconnue elle aussi. Michel, les larmes aux yeux, les a appelés spontanément « lys de Saint-Bruno ». Promeneurs, Si tu montes par les sentiers de Boscodon au mois de juin, tu pourras voir ces deux fleurs qui t'indiqueront la trace fugitive d'un sentier oublié dont tu seras le seul à connaître la vraie destination.
Le cerf des peines. À Saint-André-d'Embrun, lorsque vous quittez le village de Siguret en direction de Saint-Clément, vous trouvez sur votre droite un petit sentier qui grimpe raide vers le cerf des peines. Là-haut, sur ce rebord de plateau constitué par un verrou glaciaire, vous dominez d'un côté le lac de Siguret et de l'autre côté la Durance, fortement encaissée. Mais pourquoi appelons-nous cette hauteur montagnarde le cerf des peines? Ce 10 juillet 1919, au village de Siguret, Marie se lève bien de bonne heure. Son frère est en train d'affûter sa faux. Elle prépare le café. Puis, elle va s'occuper des poules et des vaches. Ensuite, elle va voir sa mère qui est bien affaiblie, tourneboulée, vidée d'espérance depuis qu'elle a perdu deux de ses fils à la Grande Guerre, là-haut dans le nord de la France. Marie ensuite prépare un deuxième petit déjeuner qu'elle ira porter aux faucheurs là-haut au cerf des peines, ainsi qu'à deux de ses sœurs qui attachent les gerbes. Elle se prépare de quoi tricoter pendant qu'elle gardera les chèvres. Lorsqu'elle attaque les premiers lacets qui montent sur ce sentier, elle entend à ce moment-là l'église de Saint-Marcellin de Châteauroux sonner 7 heures. Au départ, elle avance d'un pas alerte, léger. Puis, au fil du chemin, son sac devient de plus en plus lourd. Il pèse de plus en plus sur ses épaules de jeune fille. Bientôt, elle a l'impression d'avoir un énorme rocher sur le dos. C'est qu'elle a tant de peine, Marie. Elle a perdu deux de ses frères à la guerre, Gustave et Auguste. Ses deux frères qu'elle aimait tant. Fin 1918, c'est son père qui s'est laissé mourir de chagrin. Elle continue sur le sentier qui bientôt lui semble être un véritable chemin de croix, tant sa douleur est grande. Un peu plus loin sur le sentier, elle a soudain l'impression d'avoir sur son dos non seulement la folie de cette dernière guerre, mais aussi toutes les guerres des temps passés. Les violences faites aux paysans au Moyen-Âge, les vols et les viols des mercenaires des ducs de Savoie, les épidémies, le choléra, la peste, et puis aussi les humiliations et les injustices causées par tous les notables portant hermine ou armure. Elle est tant désespérée qu'elle voudrait presque en finir. C'est à ce moment-là qu'elle entend un chant de flûte simple et joyeux. Elle se retourne et derrière une petite pinède, elle aperçoit un colporteur. « Dépose ton fardeau, demoiselle !» Elle ne sait pas pourquoi, mais subitement elle se sent bien et en confiance auprès de lui. « Mais comment fais-tu pour être aussi joyeux ?» De son bel accent du pays d'Oc, le jeune homme est de Castelnaudary, de cet accent qui vous réchauffe le cœur et qui fait rouler tous les torrents de la Méditerranée, il lui dit « Je viens du pays des Cathares, mais c'est aussi le pays de la joie d'amour. » La joie d'amour des troubadours qui parcouraient le sud de la France et l'Espagne en chantant et en dansant. « Comment t'appelles-tu ? » Marie. Moi, c'est Gaston. Marie, avec les lettres de ton nom, je peux écrire le verbe aimer. Moi, je t'apporte la joie du soleil et des étoiles, l'allégresse des sentiers qui sentent bon l'herbe coupée au petit matin. À nous deux, nous célébrons la joie d'amour. Auprès de lui, Marie a oublié toute sa peine et ses soucis. Non par indifférence égoïste, mais parce que pour vivre, c'est-à-dire semer, bâtir maison et enfanter, il faut de la tranquillité d'esprit et surtout de la joie, vraie force de vie. Ils se sont mariés, Gaston est devenu paysan, et au village, lorsqu'il y avait un villageois triste, mélancolique, il allait toujours voir Gaston, qui s'empressait de le rassurer, de le réconforter. Le cerf des peines continue de s'appeler cerf des peines, mais en hommage à l'amour de Gaston et Marie, on aurait pu le rebaptiser cerf de la joie d'amour.
Le Sieur de Montbrun et la Dame Blanche du Lautaret. Le Sieur de Montbrun était parti à la suite de son seigneur, le duc de Lesdiguières, guerroyer en Piémont. C'était un homme jeune, solide, excellent cavalier. Il bénéficiait de la confiance du duc, à qui il vouait une grande admiration et un profond respect. En cette fin d'automne 1625, il est en route vers Paris. Dépêché par son chef depuis le Piémont, porteur d'informations importantes qui doivent voyager rapidement et en toute discrétion. Il remonte à cheval la vallée de la Guisane vers le col du Lautaret. Une mince couche de neige recouvre déjà le sol. Pas de quoi effrayer notre homme, il a l'habitude. Cependant, des nuages sont apparus dans la matinée, de plus en plus denses. Et maintenant, en ce milieu d'après-midi, il commence à neiger. Montbrun presse son cheval. Il est passé plusieurs fois dans cette région, et la route est encore longue jusqu'au col où il trouvera le refuge pour la nuit à l'hospice de la Madeleine. La neige tombe de plus en plus fort. La couche s'épaissit, et bientôt le cheval a des difficultés pour avancer. Le cavalier met pied à terre. Le vent forcit et élève maintenant des tourbillons de neige aveuglantes. Montbrun rabat sur ses yeux son chapeau à large bord. Le chemin disparaît dans l'immensité blanche. Ici, pas de repère possible. Les montagnes sont perdues dans les nuages. Pas d'arbres, pas de maison. Un désert blanc. Il avance lentement. Soudain, il croit deviner, à quelques pas devant lui, une forme blanche, comme une femme enveloppée dans des voiles agitées par le vent. Il regarde mieux, et la forme se précise, celle d'une femme, dont il ne peut apercevoir le visage caché par son châle, blanc lui aussi. Inquiet pour cette pauvre créature, il lui offre de monter sur son cheval, et s'approche d'elle pour l'aider, mais elle est déjà en selle. Il n'a pas vu son visage, elle n'a pas dit un mot. Dans la tourmente, Montbrun se remet en route, cherchant son chemin. Il tend l'oreille. On lui a dit qu'à l'hospice, on sonnait la cloche les jours de tempête pour guider les voyageurs égarés. Les congères qui se forment sous l'effet du vent ralentissent encore sa marche. Il s'arrête, transpire malgré la bise glacée qui lui mord le visage. La femme est toujours là, en selle, silencieuse et sans visage. Tout à coup, là, à sa gauche, il en est sûr, il entend le son d'une cloche. « Oui, c'est bien ça, Elle vient de sonner encore une fois. » Le sieur de Montbrun, un homme expérimenté, rejoint l'hospice en peu de temps, satisfait de pouvoir passer une nuit au chaud et de se remplir la panse. Il se retourne alors pour aider la femme à descendre de cheval. Ah, elle a disparu, envolée, évaporée. Inquiet, Montbrun part à sa recherche. Oh, elle ne doit pas être bien loin. La dernière fois qu'il l'a aperçue sur le cheval, il était en vue de l'hospice. Il lui a adressé quelques mots, mais elle n'a pas répondu. Les hospitaliers auxquels il demande de l'aide se regardent d'un air entendu, puis ils se signent trois fois. Il a beau insister, promettre une récompense, mais il reste là, il ne bouge pas. C'est alors que le plus âgé murmure « La dame blanche, n'y va pas, tu ne la retrouveras pas. Personne ne l'a jamais retrouvée. » « La dame blanche ?» « Oui, une créature du diable !» Et les moines se signent à nouveau, puis ils s'en vont. Montbrun conduit son cheval à l'écurie, puis il va à l'auberge de l'hospice. Là, il interroge un autre voyageur, comme lui surpris par la neige. L'autre se gratte la tête. « Ah, ça, mon brave, tu peux être sûr, c'est la dame blanche. » Montbrun attend la suite. « Oui, les gens d'ici disent qu'on la rencontre les jours de tempête, près du col. Il paraît qu'elle a vécu un grand malheur. Elle aide les voyageurs qui lui portent secours et qui lui montrent de la compassion. Elle les amène à bon port jusqu'à l'hospice, ou chez eux, où elle leur fait passer le col. Mais malheur à ceux qui l'abandonnent sur le bord du chemin. Cela, il n'en sait pas plus. Montbrun va se coucher. Demain sera un autre jour. Mais il dort mal cette nuit-là. Son sommeil est agité de voiles blancs, d'effleurements subtils sur sa peau, de diables fantomatiques et de flammes infernales. Le lendemain matin, la neige a cessé, le ciel est dégagé, le soleil brille. Montbrun reprend sa route. Un peu tourneboulé, il gardera longtemps le souvenir de cette femme étrange. Et pourtant, il en a vu des batailles, de la misère. À chacun sa part de mystère, se dit-il, puisse-t-elle trouver la paix.
Le maître musicien. Il y a longtemps, au pays des chats siamois et des matins calmes, au Vietnam, vivait un musicien. Le musicien et sa compagne s'aimaient d'un amour tendre et profond. Mais voilà, bien trop souvent elle le voyait quitter le village, l'âme triste. Et à chaque fois qu'elle lui demandait « Mais pourquoi es-tu aussi triste aujourd'hui ?» il lui répondait toujours « C'est que j'aimerais tant et tant devenir maître musicien. » Jusqu'au jour où elle a fini par lui demander « Mais qu'est-ce que c'est que ce maître musicien que tu voudrais devenir ?» Un maître musicien, c'est un vieil homme aux cheveux blancs, aveugle, mais dont la musique est si belle qu'elle peut accomplir des miracles. « Eh bien, allons par les chemins, et nous verrons bien si, au fil du temps, tu finis par devenir maître musicien. » Et les voilà partis sur les chemins, lui de sa musique, réjouissant les gens, elle de son amour, l'encourageant. Un après-midi, dans une jungle épaisse, au bord d'une clairière, il tombe nez à nez avec un tigre blanc aux yeux jaunes. Tous les deux paniquent. Le musicien ne sait pas trop quoi faire, alors il sort sa flûte de son sac à dos et il se met à jouer. Le tigre s'assoit sur son derrière et l'écoute avec la plus grande attention. Le musicien enchaîne les morceaux. Au bout d'un certain temps, Le tigre se redresse, balance sa queue de droite et de gauche, et de sa langue râpeuse se lèche les babines. Puis il fait demi-tour et disparaît dans les feuillages. Alors la jeune femme se précipite au cou de son compagnon et elle lui dit « Mais voilà, te voilà devenu maître musicien. Te rends-tu compte comment, miraculeusement, tu as réussi à détourner le tigre de notre chemin ?»« N'exagère pas, répond-il. Je ne vois pas dans tout cela l'ombre d'un miracle. D'ailleurs, même si j'ai gagné quelques cheveux blancs, ma vue est toujours excellente et je suis encore jeune. Non, 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 dans tout cela, il n'y a pas l'ombre d'un miracle, pas plus que je ne suis devenu maître musicien. » Et les voilà repartis sur les chemins, lui de sa musique, réjouissant les gens, elle de son amour, l'encourageant. Quelques années plus tard, un après-midi, alors qu'ils sortent de la sieste, ils sont sous un immense manguier. Le musicien sort sa flûte de son sac à dos et se met à improviser. Quelle n'est pas la surprise de la jeune femme lorsqu'elle voit les fruits tomber de l'arbre en parfait accord avec le phrasé mélodique du musicien. Le musicien enchaîne les mélodies et lorsqu'il s'arrête, elle se précipite, se jette à son cou et lui dit « ça y est, te voilà devenu maître musicien. Te rends-tu compte comment, miraculeusement, les fruits sont tombés de cet arbre en parfaite harmonie avec ton jeu de musicien, en soulignant à chaque impact sur le sol les subtilités et la beauté du morceau que tu étais en train d'interpréter. « Arrête, arrête !» répond-il. « Je ne crois pas du tout être devenu maître musicien, pas plus qu'il n'y a dans tout cela l'ombre d'un miracle. Non, sûrement que nous avons eu une illusion sonore. Ou alors, c'est moi qui ai suivi les mangues dans leur chute. » Alors, tous les deux sont repartis sur les chemins. Lui de sa musique, réjouissant les gens, elle de son amour, l'encourageant. Bien des années plus tard, un matin de printemps, alors que les oiseaux chantent dans tous les arbres, le musicien chante une vieille chanson traditionnelle. Il s'approche des eaux d'un lac, et là, qu'il n'est pas la stupéfaction de sa compagne, lorsqu'elle le voit continuer sans faire attention aux eaux du lac. Alors elle se précipite pour l'empêcher de continuer, mais elle est surprise de voir que l'eau se cristallise sous ses pas. Le musicien traverse le lac en marchant sur les eaux. Alors elle le contourne, c'est un petit lac, elle l'accueille de l'autre côté et se jette à son cou en lui disant « ça y est, cette fois-ci, te voilà devenu maître musicien. Te rends-tu compte comment, miraculeusement, tu as réussi à marcher sur les eaux du lac ?»« Arrête, arrête, je sais que tu m'aimes beaucoup et tu ne sais pas quoi faire pour me plaire et pour cela, tu es même prête à tordre la réalité. Non, 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 certes, je n'y vois plus guère, mais je ne suis toujours pas devenu maître musicien. » Mais cette fois-là, sa compagne est tombée raide sur le sol. Alors le vieil homme a posé un genou sur le sol et il a essayé d'entendre le souffle de sa compagne. Elle ne respire plus. Alors il est pris par un désespoir profond. Il sort sa flûte et il se met à jouer de tout son cœur et de toute son âme, comme il n'a jamais joué. Doucement, doucement, sa compagne revient à la vie. Alors elle se précipite, elle se jette à son cou et lui dit « Te rends-tu compte que tu as réussi miraculeusement à me ramener du royaume des ombres ?» Mais cette fois-là, le musicien n'a pas essayé de démêler le vrai du faux, de savoir si vraiment il avait ramené sa compagne du royaume des morts ou si elle lui avait joué une tendre comédie. Il a compris que le seul vrai miracle, c'était l'amour de sa compagne. Alors tous les deux sont repartis sur les chemins, lui de sa musique, réjouissant les gens, elle de son amour, l'encourageant.